de ce qu'est Dieu. Il y a une différence entre le caractère de Dieu et nos caractères à nous. Être humain, une grosse différence, c'est que Dieu est entièrement chaque caractéristique. Dieu est entièrement amour à 100%, entièrement saint, entièrement juste, entièrement bon, entièrement juge, entièrement. Par rapport à nous, on ne peut pas définir quelqu'un comme absolument quelque chose. Absolument joyeux, non. Dans notre être, dans notre humanité, nous sommes du coup changeants. Et du coup, c'est la différence qu'il y a entre Dieu et nous. Du coup, pour le Seigneur, ce n'est pas 50% d'amour, 50% de sainteté. Non, non, c'est entièrement chacun de ses attributs. C'est la différence qu'il y a avec nous. Ça, c'est important du coup de le signaler. C'est la différence du coup de ce que Dieu est par rapport à nous qui sommes ses créatures. Et ce matin, nous allons voir du coup la pleine amour de Dieu. Je ne vais pas parler forcément, alors on va en parler forcément un petit peu, mais de l'action de Dieu. Ce n'est pas de cela dont il est question, mais de l'être de Dieu. Dieu est amour. Du coup, je prends un texte dans 1 Jean, et c'est l'apôtre Jean qui en parle bien. Et ce n'est pas un hasard, on va le voir d'ailleurs pourquoi, c'est Jean qui en parle bien de l'amour. 1 Jean chapitre 4, donc pas l'évangile, l'épître. Je vous invite à le prendre du coup, l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 4, versets 7 à 10. Voilà, prenez votre temps pour l'apprendre parce que nous allons bien revenir sur ce texte, donc c'est bien que chacun puisse l'avoir sous les yeux. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 10. Donc voilà, pour ceux qui sont peut-être pas habitués à une Bible, c'est tout à la fin. Prenez l'Apocalypse, vous faites quelques livres en arrière et vous êtes sur 1 Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Amen. Nous allons voir du coup pour commencer, trois parties, voilà, les caractéristiques de cet amour divin. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de Dieu est amour? On verra du coup aussi ce que l'amour de Dieu n'est pas. Et les conséquences finalement de ce que Dieu est pour nous. Parce qu'il y a des conséquences. Le fait que Dieu soit amour a des conséquences pour nous chrétiens dans nos vies. Alors premier point, c'est les caractéristiques de Dieu et revenir sur ce verset, Dieu est amour. Un des plus beaux versets peut-être du Nouveau Testament que Jean va déclarer. Il ne va pas dire Dieu a agi avec amour, il va aller au but, à l'essence même de Dieu. Dieu est amour. Alors l'amour de Dieu est d'abord dirigé vers lui-même. Dans un des attributs, alors on le verra, on dit que Dieu ne change pas. Alors comment du coup comprendre Dieu est amour? Parce que pour aimer quelqu'un, pour être amour, il faut être deux minimum. Hein. On peut pas être dans une grotte et dire « moi j'aime ». Bon, à part aimer le vide, ça c'est facile. Mais aimer, c'est avec quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Eh ben, ça c'est possible avec le Seigneur parce que Dieu, du coup, est amour de par la Trinité. Dieu est composé de trois personnes qui forment une personne, et ces trois personnes se tiennent, la relation qui les tient, c'est l'amour. Dieu le Père aime le Fils aime le Fils aime le Saint-Esprit, et le Père aime le Saint-Esprit, et chacune de ces trois personnes se tiennent par l'amour, et c'est pour cela qu'on peut dire que Dieu ne change pas, et Dieu est éternellement le même. La Trinité, alors on l'abordera peut-être l'année prochaine, on va voir, pour moi c'est un des éléments clés de ce que Dieu est. La différence d'ailleurs qu'il y a avec toutes les autres divinités, religions dans ce monde, où chacun va dire Dieu ne change pas, mais il est tout seul. Ça veut dire qu'à un moment il a bien changé, ou sinon il n'est pas amour. Mais pour être amour et pour être éternellement le même, il faut du coup une caractéristique spécifique, et c'est la Trinité. Du coup, l'amour de Dieu, premièrement, est dirigé déjà vers lui-même. Pas de manière narcissique, hein, mais parce que Dieu est comme cela. Et que de par comment il est constitué, comment il est fait, de par la Trinité, finalement, déjà de là naît l'amour de Dieu. Lorsque Jean, du coup, déclare que Dieu est amour, il nous dit que tout en Dieu est amour et que c'est une des caractéristiques de son être même. Le Seigneur a voulu librement se donner d'un cœur tout entier afin de prendre plaisir à vivre en communion avec déjà lui-même. Et son amour, du coup, s'exprime depuis déjà l'intérieur de cette Trinité, et cela depuis toujours. C'est d'ailleurs pour cela que Jean dira aussi dans l'évangile de Jean, « Tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Alors que nous n'étions pas là. Dieu a su nous aimer parce qu'il savait ce que c'était l'amour, puisqu'il est lui-même amour. C'est une des vérités les plus extraordinaires de la Bible, mais aussi une des plus mal comprises. Et Dieu est amour, du coup, c'est finalement, une fois qu'on a dit cela, que c'est comment définir l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Jean a voulu dire par « Dieu est amour » ? Je vous pose ce matin la question. Voilà, moi, je connais rien de, il y a des gens que je connaisse rien de Dieu. Et je vous pose la question, comment vous définissez l'amour de Dieu? Qu'est-ce que vous me répondez? Quelqu'un dans la rue vous, il est juste? Alors, c'est quoi? C'est le juste prix? C'est quoi? C'est, oui, il est juste. Il est juste, du coup, dans ce qu'il fait, effectivement. D'autres éléments? Inconditionnel. Ah oui, c'est intéressant ça, ouais. Sans condition. L'amour de Dieu aime sans condition. Autre chose ? Parfait. On a du mal ça à le saisir, mais oui, effectivement, il est parfait. Alors voilà, on pourrait dire plein de choses. Hein. On pourrait passer cette matinée à décrire l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, ce matin, on va essayer d'effleurer finalement ce que c'est l'amour de Dieu, mais en tant qu'être humain, il faut aussi reconnaître que cet amour nous dépasse. Et que c'est d'ailleurs en vivant notre foi, notre vie chrétienne de tous les jours, que l'on arrive à connaître de plus en plus l'amour du Seigneur. Pour comprendre que signifie Dieu est amour, il faut se plonger dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et prendre en compte la totalité des passages qui parlent de Dieu. Et vous allez voir que du coup l'amour de Dieu, ce n'est pas forcément l'amour de Dieu, alors peut-être pour vous chrétiens, vous le savez, mais l'amour de Dieu que le monde se fait. Le Dieu dont parle Jean est le Dieu qui créa le monde, un Dieu créateur. Et il a créé le monde parce qu'il aime, et il a voulu aimer la création. C'est aussi ce Dieu qui va condamner ce monde au déluge, cela fait partie de l'amour de Dieu. Ce Dieu qui va appeler Abraham et qui va le rendre père d'une nation, le Dieu qui bénit, c'est ce Dieu-là. Le Dieu aussi qui va châtier ce même peuple qu'il a béni en l'envoyant en exil. Par deux fois, du coup, en esclavage. C'est le Dieu d'amour qui se manifeste. Le Dieu qui envoya aussi son Fils, alors ça, on le connaît, qui envoya son Fils, qui s'envoya lui-même, Jésus-Christ, Dieu incarné sur terre pour sauver toute l'humanité. Peut-être la plus grosse preuve d'amour du Seigneur. Ce Dieu aussi qui permit la destruction de Jérusalem par les Romains, peu de temps, d'ailleurs avant que Jean écrit la lettre. Quand Jean écrit la lettre, le peuple juif traverse une catastrophe puisque le temple a été détruit, comme Jésus l'a annoncé. Et ça, c'est l'amour de Dieu manifesté. Et puis enfin, le Dieu qui jugera un jour le monde avec justice. Ce monde-là ne veut pas l'entendre. Mais c'est aussi cela, l'amour de Dieu. Ça fait partie de la justice, quelqu'un l'a dit. Et c'est de tout cela. Si on pourrait définir l'amour de Dieu, c'est toutes ces facettes-là. Et quand Jean dit « Dieu est amour », plus dans cette phase hein, où Dieu a détruit le temple et Jérusalem, Jean écrit quand même « Dieu est amour ». Et Dieu aime, et du coup il use de patience, de grâce, de bonté, de bienveillance, mais aussi il fait preuve de justice, de discipline, et il juge sévèrement du coup son peuple parce qu'il l'aime. Je prends un exemple par rapport à la justice. Un État, alors j'ai pas idée d'un État en particulier, mais je sais pas si ça existe, d'ailleurs peut-être, sans doute. Un État, imaginons, qui a une justice qui est défaillante. C'est-à-dire que quand elle chope un criminel ou quelqu'un qui a fait n'importe quoi, elle le punit, mais elle le punit pas vraiment, et elle le laisse en liberté parce que elle doit l'aimer. Que vont ressentir, du coup, les concitoyens de ce pays? Ils vont pas considérer cet État comme un État qui aime. Et comme un État faible, un État qui ne fait pas preuve de fermeté et de justice. C'est un exemple par rapport notamment à la justice, et du coup c'est pour cela que Dieu est tout cela en même temps. Et quand on parle de l'amour de Dieu, du coup ce n'est pas faire cette lourde erreur d'utiliser ce verset « Dieu est amour » pour mettre en doute, par exemple, la sévérité et la justice de Dieu. Elle en fait partie. Ils font partie de cet amour divin, et il est faux de prétendre qu'un Dieu d'amour ne saurait être en même temps un Dieu qui condamne et punit les rebelles. Car Jean parle précisément de ce Dieu d'amour qui agit ainsi. On verra, alors je pourrais prêcher sur plein de sujets qui est intéressant. C'est notamment une phrase qu'on entend beaucoup chez nous, qui est pas forcément vraie d'ailleurs, où on dit souvent chez nous, Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Il n'y a pas de verset biblique qui vient confirmer cette thèse. On peut comprendre la pensée, mais c'est pas complètement vrai. Puisque dans la Bible, Dieu condamne les pécheurs. Et qu'à son retour, Dieu, en fait, le péché, il ne sera plus là. Donc on pourrait dire, si on prend cette phrase-là, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché, que finalement, à son retour, tout le monde serait sauvé. Mais c'est pas le cas. Parce que le péché est forcément lié à quelqu'un. Et il y a des versets qui viennent appuyer cela, dans David, qui va dire, « L'Éternel déteste celui qui aime la violence. » Un terme encore plus fort, Dieu hait ceux qui commettent l'injustice. Et puis il est question après de la correction, Jean va en parler. Voilà, le Seigneur corrige et ça fait partie de ce qu'il est, de l'amour de Dieu. Est-ce que ça va? C'est important de commencer par cela, puisque dans notre monde aujourd'hui, quand on parle de l'amour de Dieu, on pense à un Dieu qui est faible. Et finalement les chrétiens, ils sont un peu comme leur Dieu, et finalement ils ne savent pas faire une preuve d'amour, un amour juste et équilibré. Un amour difficile pour nous, êtres humains, à vivre, mais que Dieu, lui, est. Alors la conséquence, du coup, de cet amour de Dieu, c'est que cet amour de Dieu, c'est que Dieu aussi s'est engagé envers celui et envers chacun de nous. Envers toute l'humanité, Dieu s'est engagé, et c'est ce qu'il a fait en concluant une alliance avec l'humanité, avec Adam au début, et puis avec Jésus. Et cet amour est pleinement manifesté à la croix de façon spectaculaire, puisque à la croix, tous les attributs de Dieu ici se rejoignent. Jean va désigner ceci comme l'expression suprême de l'amour de Dieu en disant, dans le passage il est dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » C'est tout le message de l'Évangile. Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est donné lui-même. Alors cet amour, du coup, de Dieu est personnel. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'amour de Dieu est venu chercher un peuple. Peuple, au début dans l'Ancien Testament, et puis un peuple aujourd'hui qui est l'Église. Et du coup, Dieu nous aime, alors accrochez-vous ce matin, peut-être que vous allez découvrir quelque chose. Dieu nous aime ici ce matin, chacun de manière, de la même intensité. Mais pas de la même manière. La manière dont Dieu aime Bianca, ce n'est pas la même relation que la manière dont Dieu aime Jackie ou Jacqueline ou Juliette ou moi-même. L'amour que Dieu a pour moi n'est pas le même que l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Puisque du coup, malgré l'intensité de l'amour de Dieu est personnel et finalement adapté à chacun. Dieu n'aime pas tous les êtres humains de la même manière, mais il aime chacun personnellement. Chaque personne que nous formons étant différentes, tout simplement. Si Dieu, dans la manière, je prends mon exemple, si Dieu m'aimait, dans la manière dont Dieu manifeste son amour envers moi, vous aimez de la même manière, je suis pas sûr que vous considériez cela comme de l'amour de Dieu. Parce que vos caractères sont différents et chacun de vous est différent. Je prends un exemple pour moi, alors c'est pas la seule manière dont Dieu s'exprime, mais avec moi, pour quand Dieu s'exprime de manière merveilleuse, avec moi en tout cas, moi je le ressens de manière superbe, c'est quand Dieu me met de grosses claques. Mais moi, quand Dieu me met de grosses claques, je suis pas en train de pleurer. Non, non, j'attends ça. Et il y a que Dieu qui est capable de me parler comme ça. Parce que Dieu sait comment je suis. Mais si Dieu faisait ça avec chacun de nous, non, il ne s'adapterait pas à chacun. Du coup, cet amour est très personnel et adapté. Dans la Bible, on peut le voir. Jésus, pourtant lui qui aimait l'ensemble de l'humanité, ne va pas aimer tous les hommes de la même manière. Il va y avoir les 12 qui auront une relation particulière avec Dieu. Et parmi les 12, il va y avoir 3 personnes. Lors de la transfiguration, d'ailleurs, on va voir. Donc, c'est Jean, Jacques et Pierre. Et parmi ces 3, il y a ce qu'on appelle, alors ça peut nous déranger, un chouchou, le favori, c'est le terme qui est employé, de Jésus, c'est l'apôtre Jean. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, comme j'ai dit tout à l'heure au début, que ça soit Jean qui parle de l'amour de Dieu. Parce que Jean avait une relation privilégiée avec le Seigneur. Est-ce que ça veut dire que du coup les autres étaient jaloux, ou que du coup Jésus aimait moins les autres? Non, pas du tout. Mais Dieu a une relation personnelle à chacun. Alors on ne connaît pas Jean, c'était sans doute, en tout cas à travers les textes que l'on a, je pense quelqu'un de très sentimentaliste. Alors peut-être que c'est pour ça, qu'on ne sait pas. Mais dans tous les cas, cela montre ici que Jésus a un amour adapté à chacun. Et il n'est pas le même. Alors on pourrait se dire, oui, mais lui il est favori, tout ça. Non, non, non. L'amour de Dieu reste et demeure le même pour chacun de nous, dans la même intensité. Sur la forme, par contre, il est différent. Cet amour, en plus d'être personnel, il est spontané. Ce qui veut dire qu'en nous, il n'y a rien qui puisse inciter Dieu à nous aimer. Alors, on redit des choses hein, que l'on sait déjà, mais c'est important de le souligner. Lorsque nous aimons, nous, une personne, en tant qu'être humain, c'est généralement parce qu'il y a quelque chose d'aimable envers elle. Vous êtes d'accord ? Sauf si vous avez un problème psychiatrique et du coup, vous n'arrivez pas à faire la distinction. Bon, ça c'est autre chose. Mais en général, l'être humain aime ceux qui, finalement, voilà, sont un peu aimables. On n'aime pas forcément tout le monde. En tout cas, nous chrétiens, on est appelés à aimer tout le monde. Hein, mais bon, l'être humain, la chair que nous sommes, fait en sorte qu'en général, on aime ceux qui sont aimables. Dieu n'est pas comme ça. Pourquoi ? Parce que cet amour, c'est ce que Jean va dire, hein, ne consiste pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et qu'il a envoyé son Fils. Parce qu'en nous, quelque part, il y a le péché. Et en nous, il n'y a aucune raison qui pouvait pousser Dieu à nous aimer. Aucune. Parce que nous étions tous pécheurs. Tous. Autant que nous sommes. Mais Dieu a manifesté cet amour, c'est ce que Romain va dire. Paul va dire dans Romains, « En ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Cet amour de Dieu, du coup, il est spontané, alors que dans nos vies, il y avait tant de choses mauvaises, répugnantes, contraires à ce que Dieu est. Dieu a manifesté cet amour spontanément, sans attendre quelque chose de notre part. Cependant, la miséricorde divine ne s'exerce pas sans condition. Le pardon de Dieu est offert à tous les hommes et ne s'applique pas à tous les hommes parce que Dieu est amour, encore une fois, et qu'il laisse le choix à chaque homme d'accepter cet amour. Dieu ne force pas la main en disant « aime-moi, aime-moi, et puis je te force ». Non, non. Essayez de faire comme ça, vous allez voir, hein, ça marche pas. Hein. Donc ça fait plutôt fuir, d'ailleurs. Et Dieu fait pareil. Il a offert cet amour à tous les hommes. Maintenant, il demande aussi, il attend à chaque être humain, que chaque être humain fasse ce pas pour qu'il y ait la repentance. Et la repentance, c'est le cœur que Dieu demande. Pour pouvoir s'approcher et accepter la croix quelque part. Dieu ne pardonne pas à celui qui ne se repent pas, envers le pécheur qui ne s'est pas repenti. L'amour divin, du coup, se manifeste par la patience. Dieu est lent à la colère. Mais lent à la colère, ça ne veut pas dire qu'il est absent de colère. Il n'exécute pas immédiatement son jugement, mais il laisse le temps au coupable, c'est ce que la parole nous dit, du temps pour qu'il se repente. Parce qu'il souhaite, parce qu'il est amour, il cherche que chaque homme puisse finalement trouver le salut en lui. Dans la Bible, ça c'est encourageant, puisque dans la Bible, on n'a pas de super-héros. Un des hommes que j'admire le plus, c'est Paul, l'apôtre Paul, lui qui a été un terroriste et un meurtrier. Dieu est venu le chercher. Dieu est venu transformer sa vie. Lui qui a lapidé Étienne, il a finalement été un témoin de l'amour de Dieu. Ça va ? Alors maintenant, deuxième point, ce que l'amour n'est pas. Et je vais dire cette phrase, du coup, c'est ce que Jean va dire, l'amour n'est pas Dieu. Dieu est amour, mais l'inverse n'est pas vrai. L'amour n'est pas Dieu. C'est Jean qui va dire ceci dans le verset 7, je vous invite à le lire. Hein. L'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alors si on lit cette phrase, et en se basant uniquement sur ce verset, on pourrait penser, par exemple, qu'il suffit qu'une personne fasse du bien, ou qu'elle aime, pour qu'elle soit de Dieu. Parce que ce verset, il dit un peu ça. Hein. Si on lit le verset 7, l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Même si cette personne ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ, ne reconnaît pas le Seigneur, et d'ailleurs dans notre monde, beaucoup de personnes pensent qu'en aimant, qu'en étant une personne aimable, bonne, plein de bonté, il y a des gens qui pensent que du coup, ils sont de Dieu. Alors, est-ce que tous ceux qui aiment leur prochain sont chrétiens ? Alors pourquoi? Parce que moi je peux vous sortir ce verset. Hein. L'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais je vous embête hein, ce matin. Hein. Alors du coup, pourquoi l'amour n'est pas Dieu? Je suis d'accord avec vous. Hein. Mais pourquoi? Pourquoi on ne peut pas dire de quelqu'un qui aime que du coup il connaît Dieu? Forcément. Alors on revient un peu sur ce qu'on vient de dire avant. Qu'est-ce qui fait finalement que nous pouvons avoir une relation au Seigneur? La repentance. La repentance. Alors voilà, je ne vais pas trop vous laisser mariner. Pourquoi l'amour n'est pas de Dieu? Parce qu'il y a d'autres critères que Dieu attend de nous. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dérives hein, sur ce verset 7 de Jean, ou même notre société hein, pense qu'en aimant, finalement, on est chrétien. Mais Jean va aussi dire ceci dans 1 Jean. Qui est le menteur? 1 Jean 2, verset 22. Qui est le menteur? C'est celui qui dit « Jésus n'est pas le Christ ». Jean ne le dit pas, c'est pas celui qui dit « Moi, je n'aime pas ». Non, c'est celui qui ne confesse pas la seigneurie du Christ. Voilà l'ennemi du Christ, il rejette et le Père et le Fils. Tous ceux qui rejettent Jésus le Fils rejettent aussi le Père. Celui qui accepte le Fils accepte aussi le Père. Jean, il est très clair. Celui qui est de Dieu, ce n'est pas juste celui qui aime. C'est celui qui accepte le Seigneur dans sa vie. Ça va? Alors du coup, Jean, il souligne ici trois critères à retenir ce matin qui permettent de distinguer le vrai chrétien né de nouveau à celui qui pense aimer et qui aime. Hein. Moi, je connais des gens qui ne sont pas chrétiens, forcément, qui ne suivent pas le Seigneur, mais qui aiment. Hein. Des fois même plus que des fois certains d'entre nous. Mais qui savent aimer. Pourtant, ces personnes-là ne sont pas sauvées. Parce que Jean ici décrit que c'est celui qui confesse la seigneurie du Christ. Alors du coup, trois points. Premier point, du coup, c'est confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que Jésus demande. C'est ce que Dieu, en tout cas, nous montre dans sa parole. Le deuxième point, parce que le premier ne suffit pas, c'est l'obéissance au commandement de Dieu et donc une vie conforme à la parole de Dieu en essayant de faire du mieux que l'on peut. Et le troisième point, c'est le deuxième commandement du Seigneur, c'est l'amour des frères et des sœurs et de chaque prochain, de tous ceux qui nous entourent. Si l'un de ces trois éléments est manifestement absent, on peut avoir des doutes sur la régénération de cette personne, si cette personne finalement est véritablement née de nouveau. Mais isoler un des trois peut en faire, voilà, c'est violer l'équilibre de la pensée divine. Finalement, être chrétien, c'est vivre ces trois points-là. Ça va ? Alors pour nous, voilà, il s'agit, en sachant tout cela, d'être rempli de cet amour. Les implications pour nos vies, de savoir que Dieu est amour, c'est finalement que, c'est ce que Jean va dire, nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Connaître l'amour de Dieu, la Bible ne parle pas de cette connaissance comme du privilège de quelques chrétiens. La connaissance de l'amour de Dieu, c'est ce qui doit motiver chacun de nous, ce matin. Connaître son amour, pas juste avoir l'amour de Dieu. Connaître son amour. Parce qu'en connaissant l'amour de Dieu, nous aurons son amour. C'est-à-dire l'avoir expérimenté. La vie chrétienne, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que Dieu n'est pas théorique. Il est pratique. Il nous attend dans le concret de nos vies. Paul va dire dans Romains 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et merci Seigneur parce que nous ne sommes pas seuls. En ce bas monde, Dieu nous a donné ici le Consolateur, le Saint-Esprit, qui, dans nos vies, vient nous aider à être remplis de cet amour de Dieu chaque jour. C'est une des actions du Saint-Esprit de nous faire connaître l'amour de Dieu pour ressembler au Christ. Alors, on pourrait souhaiter que cet aspect de l'action du Saint-Esprit soit plus vivement apprécié dans nos églises. En général, dans nos églises, on connaît l'amour de Dieu, mais on ne focalise pas trop dessus, hein. On connaît, mais ce n'est pas forcément ce que l'on cherche. Parce que nous sommes, voilà, êtres humains, et nous aimons ce qui frappe les yeux. Dans une église, alors je ne vais pas faire l'expérience ici, je n'ai pas envie d'être surpris négativement, mais si je demande à des personnes, est-ce que vous préférez connaître l'amour de Dieu ou voir des guérisons et des miracles? Est-ce que dans votre vie, vous préférez du coup connaître l'amour de Dieu ou que Dieu vous utilise pour faire des miracles, parler en langue? J'ai un peu peur de la réponse. Parce que moi, je vois bien souvent, et on est attiré par le spectaculaire, ce qui frappe les yeux. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est mauvais. Hein. Les dons que Dieu donne font partie de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais c'est des dons particuliers. Paul va le dire dans 1 Corinthiens 12, 13, 14. Ces dons d'ailleurs ne s'appliquent pas à tout le monde. C'est Dieu qui les donne à chacun, selon son bon vouloir. Par contre, ce qui concerne tous les chrétiens, c'est avoir la connaissance de l'amour de Dieu. Mais l'ennemi aime bien manier un peu les billes qu'on peut avoir pour finalement nous éloigner de cette connaissance de l'amour, parce que si nous nous éloignons de cette connaissance de l'amour, nous perdons le fil avec le Seigneur. Et c'est ce que le diable veut. Et du coup, nous pouvons nous perdre dans d'autres choses, mettre en avant des dons plus charismatiques, plus visuels, qui ne sont pas mauvais, hein, encore une fois, et les mettre plus en avant plutôt que chercher l'amour de Dieu. La semaine dernière, on a eu Frédéric Manceau qui est venu nous parler de porte ouverte. Il y a un fil conducteur sur tous les chrétiens persécutés, c'est la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas dit « moi j'ai tenu parce que j'ai réussi à guérir un malade », non, 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 non. Ou « j'ai réussi à parler en langue là », non, 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 non. C'est l'amour de Dieu qui les a tenus. Et si nous, chrétiens, nous n'avons pas cette priorité qui est l'action même du Saint-Esprit, nous révéler l'amour du Père pour être à l'exemple de notre Sauveur, nous perdons le fil. Et du coup, même les dons que Dieu peut nous donner, dons de langue, dons de guérison, seront, comme dit Paul, des cymbales qui résonnent. C'est Paul, hein, il sera assez virulent, hein, parce que les Corinthiens, les hommes ne changent pas. Hein. Aujourd'hui, on est comme ça, il y a 2000 ans en arrière, les Corinthiens étaient pareils, plus attirés par les dons spectaculaires que l'amour. Et Paul va les reprendre sévèrement, en disant « vous êtes des tambours qui résonnent, vous faites que du bruit, mais vous ne valez rien ». C'est violent, hein. Bon, heureusement, c'est moi qui le dis, c'est Paul. Mais ça montre l'importance, du coup, pour nous, chrétiens, l'implication. Dieu est amour, nous devons, du coup, avoir cette recherche de cette connaissance de l'amour de Dieu, pour que nous puissions grandir en maturité et dans l'amour de notre prochain. Alors, pour conclure, Jean nous enseigne que l'amour appartient à l'essence même de Dieu. Dieu est amour. Ce n'est pas un amour humain comme le nôtre. Dieu n'aime pas de manière épisodique. Aujourd'hui, il fait beau. Cette semaine, il fait caniculaire. Peut-être que je vais moins les aimer. Parce que, bon, je sais pas trop. J'aime pas trop quand il fait chaud. Non, non, non. Dieu n'aime pas de manière épisodique. Il aime parce qu'il est amour. Quelqu'un a dit de manière inconditionnelle. C'est vrai. Il n'y a pas de condition à cet amour de Dieu. Ce n'est pas un amour fluctuant, dicté par des sentiments du moment. Ce n'est pas un amour aussi par intérêt. Pas non plus un amour paillasson et faiblard, mais un amour rempli d'équilibre et de justice et de bienveillance. Si Jean a écrit « Dieu est amour », c'était afin de dégager une règle que Jean va écrire dans 1 Jean chapitre 4. Si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. C'est dur, hein, ça. Hein. Avant de dire « Amen », il faut réaliser, hein, nous aimer les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Pour savoir si nous vivons cela, je vous propose cet exercice. Parce que si je vous pose la question, vous allez tous dire « Oui, moi je pense que j'aime mon prochain ». Non, non, non. Demandez à ceux qui vous entourent, ceux qui vous connaissent, « Est-ce que finalement, quand tu me vois, tu vois l'amour de Dieu en moi ?» Ceux qui vous entourent, s'ils n'ont pas peur de vous, ils vous le diront. Bon, s'ils ont tous peur de vous, c'est quelque chose qui ne va pas. Hein, mais demandez autour de vous. Et ça permettra aussi d'avancer, de ne pas prendre ça comme non, et de se dire, mais là, j'ai des choses à travailler. Dieu va dire quelque chose dans sa parole, hein, c'est la sanctification. On fera une série, hein, l'année prochaine sur la sanctification. Celui qui ne cherche pas la sanctification, nul ne verra le Seigneur. S'il n'y a pas la recherche de la sanctification, c'est quoi? C'est changer de jour en jour pour ressembler au Christ. Est-ce que nos prochains, ceux qui nous entourent, voient cet amour de Dieu en moi? Est-ce que j'ai cet amour de Dieu pour les autres? Ou est-ce que je suis toujours en train de me plaindre face aux circonstances? Alors, je vais vous répondre à votre place. Oui, parce que nous sommes français. Donc, c'est notre, voilà, on est comme ça. Mais du coup, pour nous, il s'agit de travailler dessus. Pas se plaindre pour se plaindre, mais aussi savoir vivre l'amour de Dieu. Pourquoi aussi je suis tiède, formaliste, un chrétien non zélé, si peu empressé à servir Dieu qui lui-même tend? Toutes ces questions, du coup, doivent trouver cette réponse, c'est dans l'amour de Dieu. Si je ne suis pas tout cela, quelque part, c'est que l'amour, ma connaissance de l'amour de Dieu n'est pas assez poussée. Suis-je parfaitement loyal au Seigneur ou est-ce que dans ma vie, il y a des compromis? Dans mon cœur, il y a des portes fermées. Et c'est cela l'amour de Dieu. Dieu nous demande à chacun un cœur tout entier. Lorsque nous serons davantage remplis de son amour, nous serons moins portés à être mécontents des circonstances dans lesquelles Dieu nous place. Nous serons moins anxieux, moins dépressifs de la vie, moins craintifs. Même si ça peut arriver, hein. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Ça peut arriver. Mais du coup, on aura moins tendance à vivre toujours comme cela. Nous aurons plus confiance en Dieu, nous serons plus zélés à le servir de tout notre cœur, et nous serons surtout mieux disposés à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Amen. Voilà, je propose de courber nos têtes ce matin, et face à ce sujet, que nous puissions nous examiner finalement, est-ce que, voilà, dans ma vie, concrètement, j'arrive à aimer tous ceux que Dieu a mis sur ma route. Dieu a mis sur mon chemin, pas un amour qui est faiblard, on vient de le rappeler, hein, l'amour de Dieu, c'est un amour équilibré. Nous ne sommes pas équilibrés, mais Dieu nous appelle à l'être. Et si nous n'y arrivons pas, c'est Jacques qui va dire de demander à Dieu, de prier le Seigneur qui nous donne de la sagesse. Celui qui demande de la sagesse au Seigneur, Dieu lui donnera cette sagesse nécessaire pour qu'il grandisse en maturité, en stature et en amour.